Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. La Russie vote aujourd'hui pour des scrutins locaux alors qu'hier Moscou a libéré le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Dans ce journal, nous analyserons les enjeux de ce scrutin pour la politique intérieure en Russie et nous irons en Ukraine aussi où notre correspondant nous expliquera les concessions faites par Kiev dans cet échange de prisonniers. Un moment historique pour la Tunisie. Hier soir, le tout premier débat télévisé entre candidats à la présidentielle de son histoire s'est tenu. Récit de Maureen Mercier dans un instant. En France, alors que la bataille des élections municipales divise dans les rangs de La République En Marche, Benjamin Griveaux, investi à Paris, était hier à l'université d'été de La République En Marche. Décryptage avec Rosalie Lafarge dans ce journal. C'est un test pour le parti au pouvoir de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, les Russes sont appelés aux urnes à l'occasion notamment de plus de 5000 scrutins locaux et à travers l'élection de 16 gouverneurs régionaux. Russie unie, la formation présidentielle majoritaire est en perte de vitesse après la très critiquée réforme des retraites de 2018. Les opposants en dehors du système sont interdits de scrutin pour des motifs qu'ils ont contestés dans la rue cet été. Mais ils ont néanmoins organisé la riposte à travers ces élections. À Moscou, Claude Brouillot.
Il y aura le boycott des uns pour délégitimer les scrutins. Il y aura aussi l'appel au vote dit intelligent des autres pour cette fois privilégier les candidats dont les positions sont les plus éloignées possibles de celles du pouvoir. Écartée en beaucoup d'endroits de ces élections locales, l'opposition russe non parlementaire a fait le pari que les représentants du pouvoir seraient soit battus, soit tellement affaiblis qu'il sera impossible alors pour le Kremlin d'ignorer ces tendances. À Moscou, Alexei Navalny, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, est allé jusqu'à a diffusé sur les réseaux sociaux la liste des candidats communistes ou socio-révolutionnaires sur lesquels il appelle tous les mécontents à reporter leur suffrage. Conscients de leur mise à l'index, les candidats de Russie Unie, le parti majoritaire, ont préféré dans la plupart des régions éviter d'afficher la référence à leur formation en perte de vitesse. Mais quels que soient les résultats de ces élections locales, les opposants dans le système, comme la base du parti communiste, ou en dehors du système, comme le collectif anticorruption d'Alexei Navalny, ont tous déjà annoncé qu'ils continueraient leur série de manifestations après les élections.
Claude Brouillot à Moscou pour France Culture, un scrutin qui se tient donc au lendemain de la libération d'Oleg Sentsov. Le cinéaste âgé de 43 ans, originaire de Crimée, était détenu depuis 5 ans en Russie. Cette libération avec 34 prisonniers politiques ukrainiens est un premier pas dans le dégel des relations entre Kiev et Moscou qui ont organisé hier cet échange de prisonniers. Mais l'Ukraine a payé le prix fort. Les explications de Stéphane Siohan, notre correspondant en Ukraine.
Le retour en Ukraine d'Oleg Sentsov, accompagné de 34 autres prisonniers politiques, a mis du baume au cœur à tous les Ukrainiens. Cela faisait des semaines que le nouveau président Volodymyr Zelensky négociait cet échange de prisonniers avec le Kremlin, poussé par ses partenaires européens, notamment Paris et Berlin. En effet, cette étape était le préalable à une rencontre qui se déroulera très bientôt entre les chefs d'État ukrainiens, russes, mais aussi allemands et français. La libération des prisonniers aura deux conséquences majeures. Tout d'abord, elle pourrait renforcer le cessez-le-feu sur la ligne de front à l'est de l'Ukraine. Mais pour cela, les autorités ukrainiennes ont dû faire une concession majeure. En effet, elles ont été forcées de relâcher Vladimir Tsemak, un commandant séparatiste qu'elles détenaient, un témoin clé du crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines en juillet 2014. 298 personnes avaient péri lors de la catastrophe, pour la plupart des ressortissants néerlandais. Le suspect a été remis aux autorités russes. Il est fort à parier qu'il ne comparaîtra jamais devant une cour pour évoquer les responsabilités dans le drame du MH17.
Stéphane Siohan, notre correspondant en Ukraine. C'est historique pour la Tunisie. Le pays a organisé hier soir le tout premier débat télévisé entre candidats à l'élection présidentielle. Il s'est tenu donc hier soir, une semaine avant le premier tour de l'élection. Durant 3 soirées, les Tunisiens pourront évaluer les 26 candidats, 9 chaque soir. Le débat est diffusé sur 11 chaînes de télévision et une vingtaine de radios du pays. Compte tenu de cette première soirée, avec notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier.
Parmi les 8 candidats sur le plateau de télévision, des têtes d'affiche, dont Abdel Fattah Mourou, candidat du parti islamiste Ennahda, première force politique en Tunisie, ou Habir Moussi, des deux femmes candidates à la présidence, c'est elle qui a des chances d'accéder au deuxième tour. Grande admiratrice et ancienne collaboratrice de Ben Ali, elle prône le retour d'un État solide. Tout est millimétré, chaque candidat a 90 secondes pour répondre à chacune des questions qui ont été tirées au sort préalablement. On ne peut pas vraiment parler parler de débat. Il n'y a pas d'interaction entre les candidats. Mais c'est déjà une avancée inouïe, selon Belabès Benkreda, fondateur de l'association Mounatara, qui a œuvré pour que la Tunisie ait droit à ces débats.
Je suis énormément fier. J'avais les larmes aux yeux, pour vous dire la vérité. Ça fait 6 ans qu'on a planifié un débat présidentiel dans le monde arabe. Voilà la première fois qu'on a vraiment réussi. La culture démocratique en Tunisie va changer.
Un regret, Nabil Karoui, patron de télévision favori des sondages, n'a pas daigné se présenter. En prison, soupçonné de blanchiment d'argent, il aurait pu demander une autorisation à la justice pour participer. Non, l'organisation n'a pas voulu l'écarter, tel que Nabil Karoui veut le laisser penser.
Ça aurait été préférable qu'il soit présent. Il n'a pas répondu, c'est ça. Nous voudrions que tout le monde participe.
Avec le favori absent et un format d'émission très prudent, les Tunisiens sont restés, malgré la dimension historique de l'événement, sur leur faim.
Maureen Mercier à Tunis pour France Culture. Direction maintenant Hong Kong, où les protestataires sollicitent le soutien des États-Unis. Un rassemblement est organisé aujourd'hui près du consulat américain. La mobilisation se poursuit donc après le retrait de la loi sur l'extradition cette semaine. Et tous les soirs, depuis leur balcon, des centaines de milliers de Hongkongais crient des slogans pro-démocratie. Une révolution par les fenêtres, en quelque sorte. C'est un reportage de Stéphane Lagarde, envoyé spécial de RFI pour France Culture à Hong Kong.
C'est tous les soirs le même refrain à Hong Kong. Il est près de 22h dans le quartier résidentiel de Tai Kouching. Des cris s'élèvent dans la nuit, des slogans jetés par les fenêtres. Libérez Hong Kong, révolution de notre temps, hurle Shen Chuyin, 22 ans. Short, basket et bandeau dans les cheveux, cet étudiant en comptabilité rentre du tennis.
Tous les soirs, on ouvre la fenêtre, on crie et on écoute l'écho. On s'encourage, on exprime nos sentiments vis-à-vis du gouvernement. Et c'est aussi une manière de diminuer la pression. La révolte dure depuis maintenant 3 mois. Nous ne sommes pas contents de ce qui arrive. C'est une façon d'exprimer nos émotions.
L'écho des voix de la protestation dans la nuit hongkongaise et du rap contre la police dans les smartphones. Comme beaucoup de jeunes de ce quartier de cadres et de commerçants, vu le prix des loyers, Shan n'est pas prêt de quitter l'appartement de ses parents. Frustration, pression, 14 semaines de manifestation, ça use. Fatigué ?
Oh
oui, on est fatigué, c'est sûr. On manifeste chaque semaine, il y a beaucoup de pression. Et cet après-midi, on y retourne pour demander au gouvernement américain de s'intéresser aux questions soulevées par les Hongkongais. Pour moi, c'est important de se mobiliser à nouveau.
Une marche pacifique ce dimanche pour demander au Congrès américain d'élargir le Hong Kong Policy Act, le traité économique signé avec les États-Unis, aux questions des libertés et des droits de l'homme. Ce qui ne manquerait pas d'être immédiatement perçu à Pékin comme une ingérence dans les affaires de la Chine.
Alors que la Chine annonce ce matin une baisse de ses exportations en repli de 1%, alors qu'elles avaient bien résisté pendant l'été avec une hausse de 3,3%, au moment même où Pékin et Washington annoncent de nouvelles négociations commerciales. Quant aux importations de la Chine, elles ont poursuivi leur repli en août, moins 5,6% sur un an, un rythme inchangé dans un contexte de demande intérieure en berne. En France, à 6 mois des élections municipales, Benjamin Griveaux a été accueilli en grande pompe hier à Bordeaux. Le candidat officiel de La République En Marche à la mairie de Paris a rejoint le campus des territoires, l'université d'été, qui ne dit pas son nom, de La République En Marche, qui se tient tout le week-end dans le fief juppéiste. Le mouvement revendique la présence de 3500 personnes, cadres et militants du parti. L'arrivée de l'ancien porte-parole du gouvernement a été savamment mise en scène, Rosalie Lafarge.
Rien n'est laissé au hasard. Une fois les contrôles passés, Benjamin Griveaux attend avant d'arriver au devant de la foule. Il avance entouré sous les applaudissements et les encouragements. Le sourire vissé aux lèvres, Benjamin Griveaux explique son arrivée tardive. Il était avec des associations parisiennes sur le terrain, son terrain. Il embrasse, serre des mains, fait des signes. Il veut montrer qu'il est ici parmi les siens.
Je suis content parce que quand il y a une réunion de famille et que c'est ma famille, je rejoins la famille qui est la mienne.
La famille, toute la famille ?
Ah, c'est la quasi-totalité de la famille. Et il y a peut-être quelques marcheurs égarés, mais je suis certain qu'ils seront au rassemblement familial le 15 mars prochain.
Un sentiment partagé par le chef de la famille, Stanislas Guérini, venu en personne accueillir son ami.
Quand il arrive parmi les marcheurs, il est chez lui et voilà. On a un seul candidat de La République En Marche, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi je suis convaincu que quand on va rentrer dans la campagne, qu'on va vraiment juger la force des candidats, la clarté des projets, c'est la dynamique qui se fera autour de Benjamin Griveaux, j'en suis absolument convaincu.
Mais si les sourires sont de mise ici à Bordeaux, on s'inquiète malgré tout surtout d'une jurisprudence Villani et de possibles autres dissidences. Hier matin, le parti a choisi d'entériner une nouvelle doctrine. Si le cas Villani se reproduit, seul le candidat légitime pourra choisir d'exclure ou non son rival impétueux du parti, ce que Benjamin Griveaux s'est refusé à faire à Paris.
Rosalie Lafarge à Bordeaux pour France Culture. Un point de météo, de la pluie sur le quart nord-est, un temps sec et ensoleillé partout ailleurs. Les températures sont comprises ce matin entre 11 et 24 degrés.